à tous et bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une émission qui émet de bonnes ondes et vous le savez tout comme moi, on en a grandement besoin de ces bonnes ondes positives. Cette semaine, j'accueille Sylvie Garcia. Bonjour Sylvie.
Bonjour Dorothée.
Alors je suis très contente parce que pour une fois ce n'est pas moi qui suis allée chercher Sylvie, c'est Sylvie qui est venue jusqu'à nous, tout simplement pour parler de positif. Pour participer à ce projet un peu fou de celui de donner des bonnes nouvelles. C'est ça un peu Sylvie, hein, donner des bonnes nouvelles.
Oui.
Alors, Sylvie, tu te présentes comme une femme qui chemine et qui a envie d'apporter sa part de vie. Qu'est-ce que tu entends par là, une femme qui chemine et qui veut apporter sa part de vie?
Eh bien, la vie pour moi est quelque chose de vibrant, qui se renouvelle à chaque instant, exactement comme chacune de nos cellules d'ailleurs. Et je crois que nous en sommes infiniment responsables. Donc c'est à nous de faire les choix face aux joies de la vie, de les accueillir et face aux épreuves, de simplement, quand une épreuve se présente, essayer de trouver ce petit coin de lumière qui est toujours, toujours présent. Parce que je suis plus une très jeune fille, donc j'ai pu expérimenter. Mmh. Et il y a toujours un petit point de lumière quelque part, mais même si on le voit pas dans l'immédiateté, il est là. Mmh. Il faut en être sûr, il va apparaître. Et à partir de ce point de lumière, on va pouvoir retrouver un petit moment de joie. Et notre responsabilité, c'est d'aller chercher ce petit point de lumière et de reconstruire la joie.
D'accord.
Et je dirais que notre autre responsabilité, et je me permets, la Dorothée n'était pas du tout au courant, elle vient d'apprendre, par rapport à une épreuve que je viens de vivre et puis une épreuve qu'on a tous vécue il y a 15 jours, c'est que quand on aime quelqu'un, et je vous souhaite d'avoir autour de vous beaucoup de gens que vous aimez, il faut le leur dire. Parce que malheureusement, parfois, ça peut arrêter un instant, et là on a des regrets. Donc ne pas oublier de dire qu'on aime, ça n'a jamais fait de mal à personne, au contraire, ça fait du bien.
C'est un peu ce qu'on souhaite faire dans l'émission Ondes Positives, délivrer des bonnes nouvelles, des bons messages et puis dire aux auditeurs qu'on les aime. C'est une façon aussi d'aimer les gens, de leur donner des bonnes nouvelles et du positif. Alors, ton premier message positif, tu viens d'en parler avec d'autres mots, c'est le suivant. Quoi qu'il nous arrive, on a toujours les ressources pour transformer ça en quelque chose de mieux pour nous. Quoi qu'il nous arrive.
Oui.
Ça veut dire qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation?
Oui. Je pense qu'on peut effectivement, si on a quelque part dans le cœur ce petit coin de lumière, et c'est vraiment donné à tout le monde, parce que c'est ça la force de vie, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ça la force de vie. Ce petit bout de lumière, et bien on peut le faire grandir. Mmh. Et je reparle de responsabilité, parce que c'est notre responsabilité d'humain. Simplement de faire grandir ce petit carré de lumière et de pas oublier même les jours de doute qu'il y a quelque chose quelque part.
D'accord.
Et qu'on peut aller le rechercher. Alors c'est pas un effort de volonté, c'est plus fin que ça. Je ne vais peut-être pas avoir exactement les mots. C'est pas que de la volonté. C'est pas de la foi non plus parce que ça n'a rien de religieux. C'est juste croire en la vie.
Mm-hmm.
Et ressentir dans son cœur qu'un jour on a aimé, qu'un jour on a été joyeux. Qu'un jour on a reçu, un jour on a donné, et voilà, la vie c'est juste ça.
C'est une question de confiance alors?
Oui, oui. Pas oublier qu'un jour on a eu confiance, même dans les grands moments de profonde désespérance.
Mmh. Alors tu insistes sur le fait que ce message que tu délivres, faut pas le lire à l'envers. C'est-à-dire que on est un peu dans une société judéo-chrétienne qui pense qu'il faut d'abord souffrir, vivre la souffrance pour que la situation aille mieux. Par exemple, souffrir pour gagner le paradis, pour mériter le paradis. C'est pas ton message. Ton message, c'est que quand ça va mal, qu'on est, on pourrait dire symboliquement, un peu dans l'enfer, eh bien, on peut trouver une solution pour aller vers quelque chose qui nous va mieux.
Absolument. Alors moi, j'ai vraiment été élevée dans cette croyance judéo-chrétienne. J'ai été élevée dans une église catholique, dans l'église catholique, j'ai été au catéchisme, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été élevée chez les sœurs, missionnaires, qui étaient très dures, et j'ai effectivement appris, et puis je suis une femme, donc j'ai aussi appris que, soi-disant, pour être belle, il faut souffrir. Vous voyez, tout un tas de prérequis, qui quand on y pense, n'ont aucun sens, et au fil des années, je me suis rendu compte que non, qu'on peut avoir de la joie dans tout, même des choses très très simples, simplement en ouvrant sa fenêtre, constater qu'il y a du soleil, et pas et pas se dire que c'est normal. Mm-hmm. Juste être joyeux de ce soleil-là. Et j'ai pas souffert pour l'avoir, ce soleil. J'ai pris le temps d'ouvrir ma fenêtre. J'ai pris le temps de le regarder.
Ouais.
Voilà, c'est un exemple basique, tout simple, qu'on peut faire tous les jours. On peut se réjouir de la pluie qui tombe parce que ça va arroser le jardin.
Mm-hmm.
Voilà, donc il n'y a pas... Pour moi, il ne faut pas souffrir. Maintenant, le chemin que j'ai fait, alors je suis passée effectivement par... j'ai commencé par le yoga, enfin j'ai fait pas mal de pratiques de cette nature-là. Et je me rends compte qu'il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de souffrir pour avoir des joies. Mm-hmm. Et que les joies qui peuvent conduire à des moments de bonheur, elles sont présentes au quotidien à condition de vouloir les voir. Voilà.
D'accord.
Donc il ne faut pas inverser mon message.
Mm-hmm.
C'est dans la souffrance, on peut retrouver la lumière, mm-hmm. mais on n'est pas obligé de souffrir pour la trouver.
Exactement. Alors ouais. Sylvie, tu as 56 ans.
Oui.
Et dans ta vie, à toi, tu es passée par des moments très durs et tu as pu toi-même faire l'expérience qu'on a toujours les ressources pour transformer ce que l'on vit en quelque chose de meilleur pour soi.
Hein? Oui.
Et tu m'as notamment expliqué un passage de ta vie, une de tes ruptures. Mmh. Est-ce que tu peux en parler ?
Oui. Alors effectivement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai connu, comme pas mal d'entre nous, des ruptures professionnelles, des ruptures affectives, et amoureuses ou amicales. Et notamment, je vais choisir de vous parler d'une rupture amoureuse, où j'ai vécu, puisque aujourd'hui, comme je suis soignante moi-même, je rencontre beaucoup de gens qui ont été dans les mains du manipulateur ou manipulatrice.
Mmh.
Et j'ai vécu ça. Et en fait, quand on est dedans, on se rend pas compte. Et on se rend pas compte parce que le principe de ces personnes-là, ce sont des gens qui sont eux-mêmes en grande souffrance, qui n'ayant pas eu de règles de vie de base, se sont constitués les leurs. Et ce sont des gens qui ne peuvent pas modifier leurs règles de vie, parce que comme ils sont construits ces règles pour survivre, ils ne peuvent pas les modifier d'un iota.
Mmh.
Et le seul moyen qu'ils ont de survivre, c'est quelque part aspirer l'énergie des autres. Donc ils choisissent des personnes qui sont en demande d'amour, comme beaucoup d'entre nous, mmh. qui sont plutôt des gentils, on va faire une classification simple,
ouais.
voilà, qui ont plutôt envie de donner. Et ils font croire par diverses manières, c'est-à-dire en passant de la gentillesse à la dureté, de la dureté à la gentillesse, et en affirmant tout et son contraire, ils arrivent à déstabiliser la personne qui est en face en lui faisant croire qu'en fait, elle ne peut vivre sans eux.
Mm-hmm.
Et une fois que la personne est arrivée à ce stade-là, elle fait faire à cette personne, enfin le manipulateur fait faire à cette personne absolument ce qu'il ou elle veut. Voilà. J'espère que j'ai été claire.
Oui, oui, très claire.
Bon. Et donc, j'étais arrivée à ce stade-là, au stade où je dirigeais une entreprise. J'étais une femme qui, à l'extérieur, était une femme brillante.
Mm-hmm.
Je voyageais beaucoup en Europe. Je donnais des conférences. J'étais souvent absente une bonne quinzaine de jours. Ça mm-hmm. voulait dire aussi des week-ends dans des hôtels, dans des congrès. Donc, on voyait la femme bien habillée avec ses talons aiguilles, sa jolie valise, ses TGV. Certains rêvaient de ma vie
mm-hmm.
parce qu'on a l'impression que c'était magnifique.
Mm-hmm.
Et en fin de compte, non. Je n'étais devenue qu'un nom social et qui représentait une entreprise avec derrière un homme qui me poussait à faire et non pas à être.
Mmh.
Je suis arrivée à un moment où véritablement, la seule solution que je voyais, c'était me supprimer. Je suis désolée, on est sur des ondes positives,
ouais.
mais c'était une réalité et je sais que d'autres le vivent. Et c'est pour ça que je voulais témoigner de ça. Parce que c'était trop dur. Je n'existais plus, en fait.
Mmh.
Et quand je rentrais, la seule chose qu'on me disait, c'est t'as été nul. Par plein de moyens différents. Hein.
Ouais.
Attention. C'était même, ça allait même jusqu'à certains ou certaines se reconnaîtront. Il y avait absolument rien dans le frigo quand vous rentrez le samedi soir, rien dans le frigo qui pouvait correspondre à ce qui pouvait me faire plaisir.
Mm-hmm.
Donc même mon corps en lui-même, mon besoin essentiel de me nourrir était nié. Ça peut aller jusque-là. Et un jour, au moment où vraiment j'allais passer à l'acte, et j'avais vraiment préparé ça depuis longtemps. Je dois témoigner de ça. Je l'avais préparé. C'était calculé. C'était pas un coup de folie.
Mmh. Tu parles de ton suicide. Hein?
Je parle de mon suicide. Voilà. Mmh. Je parle de mon suicide. J'avais accumulé des médicaments. Soyons clairs, tout simplement. J'avais accès facilement à des médicaments. Donc, je les ai accumulés pendant des semaines, des mois. Et là, j'ai dit, mais il y a eu une petite lumière, cette petite lumière dont je parle. Ça a été comme une idée brillante. Là, mmh. une petite brillance minuscule qui m'a dit, mais j'ai été une femme joyeuse. Pourquoi ça a disparu, ça?
Oui.
Et, j'ai entendu la voix d'amis qui, depuis un certain temps, me disaient « Tu sais, si tu vas pas bien, tu peux m'appeler. Tu sais, si tu vas pas bien, tu peux t'accrocher à moi. Pense à cette conversation qu'on a eue. » Et en fait, tout ça, je l'avais comme oublié. Et à partir de cette petite accroche de lumière qui est venue en moi, petit à petit, je me suis accrochée à ça. Et j'ai mis en place malgré ce que je voyais, malgré les oppositions de cet homme, j'ai mis en place un petit chemin qui a été reprendre mes études tout en travaillant. J'ai repris mes études, j'ai complété mon savoir et un jour, j'ai eu la force de lui dire « je pars ». Alors pour partir, j'ai fui, c'est-à-dire que nous avions en commun une entreprise, je lui ai tout donné. C'était peut-être un geste généreux, c'était en tout cas un geste de sauvegarde. J'ai changé de ville et pendant 4 mois, j'étais quelqu'un qui errait. Alors, si vous me voyez aujourd'hui, je suis pas du tout quelqu'un qui erre. Du tout. Je suis redevenue moi. Mais je errais, c'est-à-dire que je me sentais seule en permanence parce qu'il me manquait cette espèce de, d'occupation que j'avais de mon propre être. Il s'était occupé, la vie m'avait totalement remplie. Et donc, je me retrouvais parfois dans la rue, le visage couvert de larmes. J'avais pas conscience que je pleurais. Et je ouvrais les yeux, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, donc j'ai passé quelques mois comme ça, en étant assez plaintive, parce que quand j'avais quelqu'un au téléphone, je disais je suis seule. Je sais pas très bien si je faisais mes courses, si je mangeais, je sais pas. J'étais une pauvre chose, et aujourd'hui, ça fait 4 ans, je suis là devant ce micro, devant Dorothée, et je voulais vous donner ce témoignage, j'ai eu l'impression d'être détruite psychologiquement, j'ai réussi à me retrouver, bien sûr je suis plus celle que j'avais, que j'étais avant de rencontrer cette personne, je me suis transformée, mais j'y ai trouvé de la force, j'ai retrouvé toute ma joie, et j'ai retrouvé l'envie de construire ma vie en toute responsabilité.
D'accord. Alors pour toi, la première ressource a été cette lumière, cette étincelle, voilà. Et le mot des amis, en fait le souvenir des mots des amis.
Tout à fait.
Ça a été ta première ressource.
Parce qu'autour de moi, excuse-moi Dorothée, tout le monde avait vu. Mais moi, j'étais incapable d'entendre et je veux témoigner de ça parce qu'on se demande, on a tous ces ressources. On est juste dans ces moments-là incapable d'entendre, mais tout est prêt. Donc si on veut y aller, on peut.
D'accord.
Et qu'est-ce qu'on risque de plus que de peut-être tomber à genoux, d'avoir la capacité de se relever.
Et après, lorsque tu as eu le courage de partir, de changer de ville, lorsque tu as passé ces quelques mois un peu comme un zombie aéré, pour reprendre tes mots, quelles étaient tes ressources à ce moment-là pour pas flancher à nouveau, mais garder le cap, en quelque sorte?
Alors effectivement, mes amis, je me suis appuyée sur eux, ma famille, puisque j'ai quand même une famille, j'ai des enfants, j'ai une maman, enfin j'ai un frère, voilà. Donc je me suis posée de temps en temps, aller les voir. Des fois c'était juste aller prendre un thé sans parler de ça. Si je me sentais vraiment trop vide, trop seule, trop en manque de cette personne qui m'avait remplie, mais en y mettant ce qu'il était lui et pas moi. J'allais des fois juste prendre un thé, voilà. Et en changeant de ville, bon bien sûr j'étais obligée de reconstruire mon lieu de vie qui est bien plus petit. J'avais une immense maison. J'habite 60 mètres carrés qui est divisé en deux puisqu'il y a une partie qui est destinée à mon travail. Je n'ai aucun regret. J'ai laissé un grand confort financier. Je n'ai absolument aucun regret. Je sais que ma retraite en sera entamée. Enfin, je n'ai vraiment aucun regret parce qu'aujourd'hui, je suis juste moi, avec les doutes et les joies d'un être humain. Mais en tout cas, moi.
Merci pour ce témoignage très émouvant. Alors, on va écouter une musique que tu souhaites nous faire partager. C'est ton premier choix musical. C'est In Between du chanteur Sage.
Then another feeling in between. Still another feeling in between.
In Between de Sage. Alors pourquoi tu l'as choisi cette musique ?
Alors justement, c'est un bon reflet de ce que je viens de raconter. Sage, il était le guitariste et je crois le chanteur du groupe Revolver. Puis le groupe allait pas très bien, enfin d'après ce que j'en ai entendu, mais c'était son témoignage à lui. Le groupe n'allait pas très bien et au même moment, ils ont été cambriolés. Tous les instruments de musique ont été soit détruits, soit volés. Et cet homme s'est senti dépouillé de tout ce qui faisait sa vie. Il avait même plus une guitare. Et donc, il a été assez... Il a eu l'impression qu'il allait s'écrouler, puis il a trouvé un piano. Il n'avait pas vraiment joué de piano dans sa vie. Enfin, ça reste un musicien. Donc, il s'est mis à composer, enfin, à jouer quelques mélodies sur ce piano pour s'aider un petit peu, parce qu'il avait besoin de musique. Et il a commencé à jouer des mélodies simples, et là, il a découvert le piano. Et c'est de là qu'est né son dernier disque, qui est sorti il y a 6 mois, dont la chanson dont on vient de... Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, dans cet effondrement qui était sa vie.
Oui.
Il y a eu un piano, ça a été sa lumière, il a été jouer quelques notes, et voilà, ce qu'on vient d'écouter.
Ça a été sa ressource.
Et j'ai trouvé que c'était assez joli, ce qu'on venait d'écouter. Voilà.
Donc, dans les plus grands malheurs, il ressort toujours quelque chose de positif. Hein.
À condition de vouloir s'en donner la peine et le moyen. Voilà.
Et puis, peut-être, à condition, ça c'est une hypothèse, de faire aussi quelque chose que l'on aime pour soi.
Absolument.
Alors, je fais une transition sur ton deuxième message positif, comme un credo, quelque part, et qui est le suivant. Faites ce que vous aimez, même si ça comporte des risques.
Oh, absolument. C'est ce que j'ai appris à mes enfants pour l'avoir vécu. Moi, je n'étais pas du tout destinée à soigner, mais c'est ce que j'avais au fond de moi. Je n'ai pas eu de famille qui m'a poussée à ça, parce que ça ne correspondait pas. Mon papa voulait que je rentre en administration pour que je sois dans la sécurité. J'ai toujours fait l'inverse. Aujourd'hui, je suis profession libérale. C'est-à-dire que financièrement, c'est un risque majeur, puisque j'attends que les gens viennent à moi. Je donne des soins que j'aime à donner profondément, et apparemment qui font du bien, puisque les personnes reviennent et m'envoient leurs amis ou familles. Mais je dépends totalement du fait que d'autres viennent à moi, pour pouvoir simplement payer mon loyer, manger et payer mes charges, alors, comme chacun d'entre nous.
D'accord. Voilà. Alors, on va en parler de ta vie professionnelle. Toi, tu as commencé ta vie professionnelle comme visiteuse médicale.
Oui.
Alors, bon, visite médicale, moi, je pense à la visite médicale à l'école, mais c'est pas ça.
Ah, pas du tout. La visiteur médicale, c'est quelqu'un qui a une formation plutôt en biologie, en biochimie, etc., et qui va voir les médecins pour de la part de laboratoire pour lui parler des médicaments. Voilà, c'est ça un visiteur médical.
D'accord. En fait, ce que tu aurais voulu enfant, idéalement, c'était être médecin, gynécologue, accoucheuse.
Absolument. On est repart dans la vie, vraiment, ce que j'avais envie de faire. Et tout le monde me disait, t'es folle, une fille, ça fait pas ça. pour accoucher des femmes, il faut pouvoir se lever la nuit. Quand on est maman, on peut pas. Et donc, effectivement, j'avais envie d'être à cette source de la vie. Et c'était ce que je voulais faire, véritablement. Mais comme j'ai un bac, j'ai pas du tout un bac scientifique. J'ai commencé médecine. Et en sachant, bon, parce que j'ai quand même toujours un plan B, étant donné que il n'y a pas de fortune familiale, mon plan B, c'était, je me suis dit, si je ne réussis pas, ben, je ferai de la visite médicale par dépit, mais pour rester dans le milieu du soin. Effectivement, bon, médecine, c'était impossible à réussir pour moi, mais heureusement, parce que je fais une chose que j'aime infiniment, et sans, avec moins de contraintes.
D'accord. Donc pendant plusieurs années, tu as fait de la visite médicale, hein, donc tu es allé voir les médecins pour leur pour promouvoir des médicaments.
Ah, tout à fait.
Tu étais en fait salarié d'un laboratoire pharmaceutique. Et au bout de quelques années, tu as commencé à voir les limites de ce secteur-là.
Oui.
Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as constaté?
Je peux être sincère?
Ouais, oui.
Alors, sûr. C'était la période où on a découvert ce qu'on appelle maintenant le HIV ou le sida. J'étais dans le plus grand laboratoire qui maintenant a été absorbé, mais qui était le plus grand laboratoire des antibiotiques en France et international. Et pour moi, il y avait une vilaine bactérie, j'anti-antibiotique, et moi je sauvais le monde, voilà. Je croyais que la vie était comme ça. Et puis, quand cette terrible maladie est arrivée, on savait pas du tout ce que c'était. Je voyais des gens que j'avais vus au début janvier, et bien au mois de mai, ils étaient morts. Il y en avait, j'avais des médecins parmi mes connaissances, comme ça, ils disparaissaient. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Un jour, j'ai entendu un propos. Alors, on commençait dans la société entendre des propos, dans la rue, entendre des propos à ce sujet. Parce qu'il y avait une certaine peur qui s'installait, mais surtout dans la société qui m'employait. Un jour, j'ai entendu « Oh, de toute façon, on trouvera toujours un remède, c'est une maladie de marginale. Jetez le mot parce qu'il était grossier. C'est une maladie de marginale et puis on trouvera toujours le remède. » Et moi, je constatais que non. Les gens que je voyais mourir, c'était des médecins que je voyais dans mon travail, qui étaient des bons pères de famille, qui n'étaient pas des marginaux. Ça pouvait être le médecin généraliste du coin. Et qui, pour une raison, maintenant on connaît les vecteurs de transmission, une raison qu'à l'époque on connaissait pas, mourait du jour au lendemain. Voilà, donc et là vraiment j'ai pris, on m'aurait jeté un seau de glace au visage, c'était pareil. Donc tout mon monde a été très ébranlé, j'en suis tombée malade d'ailleurs à quelques semaines. Je fais plein de vertiges, on trouvait pas l'origine. Et puis quand je suis revenue, je n'ai pas été arrêtée très longtemps, mais quand je suis revenue, j'ai pas du tout vu cette entreprise ni le monde dans lequel j'étais autrement, de la même façon.
De la même façon, oui.
Donc je me suis dit qu'il fallait que je vive le monde autrement, et entre-temps, j'avais entendu parler d'homéopathie, de médecine chinoise, de naturopathie, et là ça fait titre. Je me suis dit, bon allez, je vais aller voir ce que c'est, ne serait-ce que pour ma culture personnelle.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai commencé les études qui m'amènent à exercer aujourd'hui le métier que j'exerce. Voilà.
D'accord, la naturopathie, entre autres. D'accord. Oui. Donc tu as compris qu'en fait, le monde des laboratoires pharmaceutiques et de l'allopathie, c'est comme ça qu'on appelle ce secteur-là, ne solutionnait pas tout, en fait.
Absolument.
Et c'était de la déception, en fait.
J'étais profondément choquée, d'abord, d'entendre ces propos. J'étais profondément déçue. Mais justement, la lumière dans tout ça, c'est que ça m'a amenée me questionner, et du coup j'ai fait la synthèse. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres voix, j'en avais entendu parler, je n'avais pas fait attention, j'étais dans ma petite bulle où j'allais sauver le monde avec ce système là et aujourd'hui j'ai bien compris qu'il existe une médecine dite intégrative, c'est-à-dire que toutes les voies sont possibles à condition qu'elles correspondent aux besoins de la personne. Voilà, il n'y a pas que la chimie qui est possible, il y a plein d'autres choix, mais on est libre de les on est libre, puisque chacun est responsable de sa santé. On est libre d'aller les chercher.
Alors justement, la naturopathie, pour toi, c'est quoi? Comment tu la définis?
Alors la naturopathie, on va dire de manière globale, c'est un petit peu comme de la médecine générale, mais avec des méthodes naturelles. Dans cette naturopathie, moi, je ne me satisfaisais pas pleinement quand j'ai commencé à exercer, tout simplement parce que les personnes arrivaient avec leurs problématiques et elles repartaient avec une liste de produits à utiliser, mais qui étaient naturels. Mais ils repartaient avec leurs problématiques. Et j'aime les choses très efficaces. Donc, je me suis questionnée, j'ai recherché, et dans la naturopathie, j'avais appris plein de techniques. J'ai sélectionné dans cette technique, et j'ai repris mes études dans cette technique qui est l'iridologie. L'iridologie permet de faire un diagnostic à partir de lecture de certains symptômes dans l'iris.
Sur la rétine de l'œil.
Non pas la rétine, vraiment la surface de l'œil, c'est-à-dire la partie colorée et la partie blanche. Donc je vais faire quand même très court parce que on est sur la radio, mais c'est quelque chose qui existe depuis les Grecs, qui est très utilisé en Allemagne, qui est utilisé en Italie, qui est utilisé aux États-Unis, qui est peu courant en France. Ça permet la lecture du capital santé. Ça permet de voir ce qui est en train de se dérégler et on peut même se projeter sur ce qui pourrait se dérégler puisqu'on voit toute la génétique de la personne. Je parle pas d'ethnie, je parle de génétique. Moi, je m'appelle Garcia, mais ma génétique, elle est du nord de l'Europe. Alors que chez nous, on a tous des noms en espagnol.
D'accord.
Ma génétique dans mes yeux, elle est du nord de l'Europe. Donc ça veut dire que toutes mes cellules fonctionnent comme ça. Ça veut dire que mon alimentation doit être adaptée à ça, par exemple.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est la partie bilan. Et après, j'ai acquis des techniques de soins qui se servent de la lumière, puisque nous sommes comme les plantes, nous faisons de la photosynthèse, je développe de plus en plus, parce que vraiment l'expérience m'a montré que les émotions sont à la base de toutes nos perturbations. Je développe de plus en plus l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques de libération émotionnelle, ou techniques brèves, qui ont pour but d'aller rechercher l'émotion source, de la prendre en charge, de la considérer, puisqu'elle est là de toute façon, ça sert à rien de se battre contre soi, de la prendre en charge, de la bercer, comme on bercerait un enfant, et après de proposer à notre cerveau des solutions pour dépasser le choc émotionnel.
D'accord.
Voilà à quoi je joue toute la journée, avec les personnes qui veulent bien me faire confiance. Et c'est infiniment efficace.
Alors, on parlera un petit peu plus de ces techniques si on a le temps en fin d'émission. En quoi ça a constitué pour toi une prise de risque de faire ce que tu aimes, de quitter le métier de la visite médicale et d'arriver à un métier que tu aimes aujourd'hui?
Tout simplement déjà parce que la visite médicale, aujourd'hui, je serai minimum chef de produit. C'est-à-dire j'aurai une grosse voiture, des stock options, un bon salaire, une belle mutuelle, parce que les mutuelles de groupe sont mieux que les mutuelles individuelles, des vacances payées en partie par l'entreprise, enfin tous ces avantages qu'on peut avoir quand on est cadre ou cadre sup dans une grosse boîte. Voilà, et aujourd'hui j'ai pris le risque déjà de ne pas parler dans la voie commune, puisque spontanément en France, quand même, il y a un plus grand nombre de personnes qui reconnaissent l'allopathie plutôt que les médecines dites alternatives. J'ai pris le risque financier, puisque je suis aujourd'hui profession libérale, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je suis seule face à moi-même, face à mes revenus, face à quand je prends des décisions ou que je donne un conseil éventuel à quelqu'un. Je suis seule avec cette personne et j'assume la responsabilité de ce que je fais. Voilà, donc je ne partage pas la responsabilité avec toute une équipe. C'est très différent.
Donc plein de risques, mais en contrepartie, tu te sens en accord avec toi-même.
Absolument. Je vis une joie tous les jours.
On est mieux dans sa peau et on est moins malade quand on fait une activité au quotidien qui est en accord avec soi.
Oui, on a des souffrances, comme tout le monde, parce que nous sommes des humains, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une autre ressource. Il y a une autre ressource, vraiment. Je peux pas toujours la qualifier, mais il y a vraiment une ressource. Il y a plus de force. Mais pas dans l'effort, je vais soulever du poids. Il y a une espèce de force de vie, là, qui est là.
C'est ce que j'appelle. Une énergie
positive. Voilà. Exactement, Dorothée. Qui est vraiment ce que j'appelle une vraie force, parce que c'est de la vie qui est là. Comme une énorme source de lumière, comme si j'avais un grand soleil à l'intérieur. Voilà.
C'est
une bonne image.
Il n'y a pas besoin de faire d'effort, puisque la force est là.
Voilà. Il faut juste de temps en temps que je me dise, tiens, le soleil est là, il faut aller le chercher. Et les jours de doute, parce que je suis humaine, j'ai des jours de doute.
Bien sûr. Alors, tu as décidé de mettre à l'honneur une personne qui a choisi aussi de faire ce qu'elle aime. Elle s'appelle Lynn Alone. Tu nous raconteras son histoire. Elle chante un titre en suédois. Alors, je vais le dire comme je le sens. Voy, voy, mou. Spalle fu, mele ue. Alone, chanson Vuoi Vuoi Mu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette musique?
Alors, en fait, j'ai rencontré ce groupe lorsqu'ils sont venus. Ce sont des gens, surtout de la jeune fille, parce qu'en fait, il y a une jeune femme, Caroline, et son guitariste, Arnaud. Et notamment, Caroline est de la région. Ils vivent à Paris parce que c'est comme ça pour beaucoup de jeunes maintenant, avec l'intense désir de revenir en province. Ils sont venus cet été enregistrer un disque dans le nord de la région, justement, et c'est là que je les ai rencontrés. Ils ont donné deux concerts, et j'ai été très émue, parce que j'ai surtout parlé avec elle. C'est une jeune fille qui avait une situation professionnelle confortable dans la mesure où elle aurait pu y rester toute sa vie, avec un petit boulot tranquille, un salaire qui lui permettait de payer son loyer, et puis voilà, de vivre très simplement. Et la musique l'a portée, elle chantait comme ça, dans les bars, le soir, c'était... Voilà, et un jour elle a dit non, ma voix, malgré qu'elle m'a dit qu'elle avait très très peur, elle a tout quitté. Oui. Elle a tout, vraiment tout quitté, elle a tout laissé. Elle a trouvé un financement par internet pour, enfin ils ont pardon, trouvé un financement par internet pour enregistrer ce disque, et ils ont mis de l'argent personnel, c'est-à-dire leurs économies. Et aujourd'hui ils essaient de se faire connaître, Et ce que j'ai aimé chez ces gens-là, c'est que vraiment tout parle de liberté, puisque en fait, ils chantent des musiques du monde. Il y a aussi bien des chants sacrés, comme celui qu'on vient d'entendre, qui est une chanson écrite, qui est une chanson contemporaine écrite par une prêtresse Sami, qui est une population du nord de la Norvège, il fait froid, vous voyez, et qui est un chant sacré. Voilà, qui parle de liberté, puisque c'est un oiseau. En fait, le thème, c'est oiseau. Toi qui vois très loin à l'infini, vole, vole toujours. D'accord. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ce chant de liberté.
D'accord. Bon, très bien. En tout cas, c'est une musique qui nous transperce, hein, qui fait quelque chose à l'intérieur. Sylvie, donc tu as commencé à nous parler de ton métier, hein, des différents outils que tu utilises aujourd'hui pour accompagner les personnes. Tu dis, en parlant de ton métier, que tu aides la vie à être. C'est une belle expression, ça.
Merci de le reconnaître. Pour moi, c'est ça me paraît être naturel. Surtout, je le dis sans en tirer gloire. J'ai le ressenti que quand des personnes viennent à moi, c'est parce qu'elles cherchent une forme de liberté. Mm-hmm. Et pour être libre, il faut au moins se reconnaître en partie. Pour pouvoir exprimer ce qu'on est, puisqu'on est chacun à la fois unique et relié aux autres. Donc cette originalité, cette unicité que l'on est en étant tous là, chacun sur Terre. D'ailleurs, si dans l'instant on supprimait ne serait-ce que l'un seul d'entre nous, le monde ne serait pas exactement le même. Même si des fois on est très en colère contre certains et qu'on les supprimerait bien, parce que c'est humain aussi. Voilà, donc cette originalité que l'on apporte tous à ce monde humain, eh bien, si on peut en prendre conscience, si on peut la développer en étant en accord avec nous, se sentir à l'intérieur en paix avec nous, voilà, mon travail, c'est ça. Donc, j'ai des outils différents. Il y a ceux qui commencent par le corps, il y a ceux qui commencent par l'émotionnel, et puis on essaie de faire rejoindre tout ça.
D'accord. Voilà. Alors, dans la société actuelle, on est quand même très nombreux à ne pas s'autoriser à être soi. On est plus dans être ce que l'on attend de nous.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un chemin un peu compliqué et parfois long.
C'est un chemin. Soi. Les Asiatiques, qui sont parfois plus philosophes que nous, le bonheur, est-ce que c'est pas le chemin?
Oui.
Tout simplement. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher la petite lumière. Parfois on prend même des chemins de traverse. Dans notre société, on nous demande de nous fixer des objectifs et de prendre des grandes routes bien tracées pour nous. Des grandes autoroutes tracées avec des péages d'ailleurs. Et puis parfois, on peut s'autoriser à prendre des chemins de traverse. Et sur ces chemins de traverse, il faut pas se pénaliser. Il faut pas s'en vouloir d'avoir pris des chemins de traverse. Au contraire, on va dans ces petits sentiers de traverse, on va découvrir d'autres choses qui nous auraient été interdites de connaître de nous si on avait pris que les autoroutes. Donc prenons des chemins de traverse, tout en sachant où est l'autoroute, parce que parfois c'est bien d'être sur l'autoroute, ça fait du bien aussi.
Plus reposant.
C'est plus reposant. Voilà, il faut tout s'autoriser. Il faut tout s'autoriser. Aller chercher certaines de nos limites tout en gardant de la joie. Voilà, moi je vois le chemin comme ça. Quand on perd trop la joie, c'est qu'on a vraiment été loin avec soi. Alors certains êtres sont capables de l'assumer. Moi je me rends compte que parfois je vais me chercher quand même dans la limite. C'est moi. Je propose pas à tout le monde de faire ça. Je dirais trouver le juste équilibre entre aller peut-être sortir des sentiers battus tout en gardant de la joie, c'est peut-être ça. La voix du milieu.
D'accord.
Des Chinois.
Alors, Sylvie, finalement, toi qui voulais être médecin accoucheur quand tu étais petite, tu n'es pas aujourd'hui médecin gynécologue accoucheur ou sage-femme, mais finalement, tu as trouvé une autre façon d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes.
Oui. Oui, je crois. Disons qu'en tout cas, je me définis souvent, je dis souvent aux personnes qui viennent à moi, voilà, on gravit ensemble un escalier, moi je suis la rampe. Si vous décidez d'un seul coup de prendre un escalier qui est à gauche, vous inquiétez pas, la rampe sera là. Je suis juste là pour, au moment de doute, vous puissiez vous accrocher à la rampe et que vous tombiez pas de l'escalier. C'est juste ça. Donc je suis un guide ponctuellement sur votre route, dans le respect de ce que vous êtes. Je ne me substituerai jamais à vous. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'essaie en permanence de faire dans mon relation à l'autre, d'être dans la neutralité.
C'est le code déontologique des thérapeutes.
Oui, j'essaie aussi dans ma vie personnelle. Je ne dirais pas que dans ma vie personnelle, j'ai réussi toujours. Parce que je suis humaine avec mes propres émotions. Mais le code déontologique des thérapeutes, j'essaie vraiment de le respecter. Voilà, c'est-à-dire de ne pas me laisser impacter par les autres, bien que l'expérience me montre S'il y a des thérapeutes à l'écoute, je pense qu'ils se reconnaîtront, que souvent les personnes qui viennent à nous, c'est parce qu'on a une part de nous qui avons vécu une partie de ce qu'ils vivent. Mm-hmm. Donc ça permet, tout en restant dans la neutralité, d'avoir une qualité d'écoute peut-être autre.
Mm-hmm. Cette fameuse empathie.
Oui, certainement.
D'accord. Alors Sylvie, tu as choisi de mettre une deuxième personne à l'honneur qui illustre très bien tes deux messages positifs. Et cette personne, c'est Michel Petrucciani.
Oh, c'est une troisième personne, non?
Ah oui, la troisième musique, oui c'est vrai. Pardon. J'avais Lynn Alone dans la tête et j'avais oublié Sage, mais c'est vrai.
En plus, il y a joli dans Sage, voilà.
Ouais, c'est vrai. Alors, la troisième personne à l'honneur, et c'est Michel Petrucciani. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de dire sur lui? Pourquoi tu as pensé à lui?
Alors, j'ai pensé à lui, bien sûr, il est connu pour être un des plus grands pianistes, certainement, du XXe siècle. Mais cet homme qui était porteur de la maladie de Verre, il faisait 99 centimètres. C'est pas très glorieux. Dans une société, on nous demande d'être tous grands, beaux, solides. Voilà, 99 centimètres, une maladie qui le faisait souffrir, qui le prédestinait à mourir tôt. Il a vécu la vie en dehors de sa musique, qu'on aime ou pas, mais enfin, qui est quand même d'un très beau niveau. Il a vécu la vie de Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'il a des enfants, une femme. Voilà. Il aurait pu se contenter de ça, c'était déjà un grand bonheur. Non, il a exposé à la fois cette joie qu'il nous donne à l'écouter, aux yeux du public, mais aussi ce corps qui était difforme par rapport aux critères de beauté qui sont dans notre société. Parce qu'il s'est jamais caché derrière un disque, il était sur scène et on le voyait jouer sur son petit tabouret un peu rehaussé et il pouvait jouer des heures entières. Voilà. Et donc là, moi j'y vois aussi bien la liberté que cette capacité qu'on a à se transcender malgré les difficultés de la vie.
À trouver une ressource en soi, même lorsqu'on ne correspond pas du tout aux critères de beauté, aux critères de façon générale.
Et il a fait ce qu'il aimait, cet homme. Et il nous l'a montré.
Donc, il cumule les deux messages
positifs. C'est pour ça que j'ai dit que ce sera notre dernière musique. C'est pour ça que je l'ai mis là.
Bon, et après, et effectivement, il a toujours fait ce qu'il a aimé. Enfin, on imagine. On n'a pas eu un entretien avec lui. Et ça a été sa ressource, en fait.
Je pense, très certainement.
D'accord. Alors, on va écouter un petit peu Michel Petrucciani, un extrait de Caravane.
Thank you.
Un extrait de Caravane joué par Michel Petrucciani. Merci Sylvie pour ce morceau. Alors, j'ai envie de te poser la question suivante. Toi qui es venue seule jusqu'à Onde Positive avec l'envie de partager, comment tu as vécu ce moment de radio ?
Avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vraiment la première fois. J'étais jamais rentrée dans un studio, donc c'est très, vraiment très émouvant pour moi. Avec beaucoup de joie, parce que j'y ai trouvé une grande humanité. Voilà, et c'est vrai que je suis venue à toi simplement parce que, simplement le titre de l'émission. On nous raconte des tas de choses tristes alors que je suis persuadée qu'à tous les coins de rue, dans tous les immeubles, dans tous les quartiers, il y a des gens qui simplement savent regarder l'autre et avoir juste un petit geste de respect et de reconnaissance qui peut être un simple sourire ou un vrai bonjour, pas un bonjour en pensant à autre chose. Voilà, simplement ça, si tous les jours... chacun d'entre nous faisant une toute petite chose de cette nature-là, il y aurait beaucoup plus d'ondes positives dans ce monde-là.
C'est sûr.
Et je suis sûre que ça existe. Mais souvent, sur les ondes, quelles qu'elles soient, on nous parle que de catastrophes. Mm-hmm. Et ça me désole. Mm-hmm. Bon. Donc, ondes positives, j'ai trouvé ça magnifique.
D'accord, donc tu es contente de l'expérience?
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Alors, on le rappelle, Sylvie, tu es thérapeute, iridologue, naturopathe, tu utilises plusieurs outils. En tout cas, oui. Tu accompagnes les humains à être ce qu'ils sont. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors, j'exerce à Portée-sur-Garonne, donc dans la banlieue de Toulouse, tout simplement. Est-ce que tu as besoin d'autre chose?
On donnera tes coordonnées, ton portable et puis ton adresse mail, ton site internet sur le podcast de l'émission.
Je crois que c'est le mieux.
Voilà, mais tu es pas très loin, Portée-sur-Garonne. Non. C'est quoi, 50, 60 kilomètres?
Oui, j'ai des personnes qui viennent d'ici, qui viennent du Gers, qui viennent de Pau et du côté de Montauban, j'en ai pas mal.
D'accord. Je te remercie beaucoup pour ton partage, pour la part de vie que tu nous as donnée.
Merci.
Et à bientôt.
Merci beaucoup Dorothée.
Chers auditeurs, vous avez entendu, c'est très simple de venir partager un message positif à la radio en ma compagnie. Si vous en avez envie, vous trouverez une ressource pour le faire par mail à dorothée.lio@hotmail.com ou sur la page Facebook de l'émission Onde Positive CFM Radio. Vous pouvez réécouter cette émission samedi à 21h et sur le podcast sur cfmradio.fr. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, super positive, et à mardi prochain.